7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation, comme chaque vendredi dans l'émission. Et aujourd'hui, être une fille ou un garçon conditionne-t-il le choix de son métier ? Ingénieur ou électrotechnique pour les garçons, métier du social pour les filles ? Cette répartition est-elle aussi caricaturale ? Comment évoluent les choix des jeunes aujourd'hui ? Quel est le rôle des mécanismes d'orientation scolaire ? Les enseignants ont-ils des clichés plein la tête pour conseiller leurs élèves ? Nous allons nous intéresser aux jeunes qui ne suivent pas le mouvement, justement, qui font des choix atypiques. Alors si c'est votre cas, les voisins, les voisines, si vous avez choisi une filière d'études, si vous êtes en nette minorité en tant que garçon ou en tant que fille dans votre filière d'études, appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Nous allons en discuter avec Clotilde Lemarchand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'université de Caen et vous publiez une enquête intéressante, unique en son genre, c'est le titre, aux presses universitaires de France, filles et garçons atypiques dans les formations techniques et professionnelles, hein, et non pas dans les formations universitaires. On va en discuter. Avec nous également Françoise Vouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de psychologie de l'orientation au Centre National des Arts et Métiers et vous êtes présidente de la commission de lutte contre les stéréotypes et rôles sociaux au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis vous avez publié aussi il y a quelques années, les métiers ont-ils un sexe? En fin d'émission, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Que se passe-t-il pour les enfants lorsque les parents divorcent ? Alors, je vous lis quelques commentaires à propos de notre sujet sur les choix d'orientation en fonction de son sexe. Stéphane, qui est à Moundou, au Tchad, nous dit « Moi, je suis enseignant et c'est un choix. Un métier se choisit par vocation et non par imposition. » Madji est à Lomé, au Togo. « Moi, quand j'étais au lycée, deux filles nous battaient toujours en maths et en physique. Il faudrait que les filles africaines retirent de leur tête ce mythe qui les pousse à préférer les filières non scientifiques. » En France, hein, Françoise Vouillot, les meilleurs élèves en classe S, ce sont souvent aussi des filles, si je ne me trompe pas, non ?
Ben, elles sont toujours pas majoritaires, hein, et elles sont pas toujours à la hauteur de ce qu'elles devraient être si le fait d'être une fille n'avait pas d'influence.
Mais elles sont de plus en plus nombreuses dans les filières scientifiques.
On va dire que 46% des élèves de S sont des filles, mais comme elles sont 57% dans les filières générales, vous voyez, il y a encore 10% de... Mais bon, ce chiffre, il est plutôt en augmentation.
Et elles réussissent bien dans ces filières.
Eh bien oui, elles ont un taux de réussite au bac S légèrement supérieur à celui des garçons, puis elles sont plus nombreuses que les garçons à obtenir les mentions très bien et bien à la spécialité mathématiques-physique, en plus du bac S.
Joël est à Cotonou, au Bénin, et nous dit que dans son collège, il y avait très peu de filles dans la série scientifique, à peine 10 sur une classe de 50 élèves, par contre dans les séries littéraires, et c'était totalement le contraire. Idriss à Ouagadougou nous dit que dans son école d'ingénieur, le 2IE, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs d'Afrique francophone, hein, je le précise, on compte beaucoup de filles, mais c'est un cas exceptionnel comparé à d'autres écoles. Et il a tout à fait raison de le dire, ça vient aussi souvent d'une politique de l'administration. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous nous suivez sur Facebook et sur Twitter en direct.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Et tout de suite, écoutez ce témoignage au Cameroun, à l'Institut universitaire de la Côte à Douala. Marie Lorraine, 18 ans, est en troisième année d'ingénierie. Elle a eu son bac à 16 ans. Charlie Dupiot l'a rencontrée dans un décor industriel, en robe cintrée à pois, où elle s'initie à la mécanique.
Ici, nous sommes au laboratoire de fabrication mécanique où généralement on travaille sur tout ce qui est mécanique, tout ce qui est fabrication. On nous donne des pièces parce que tout ingénieur doit aussi savoir comment fabriquer les pièces mécaniques. Ici, vous pouvez voir, c'est une perceuse à colonne. Et de ce côté, on a beaucoup plus des tours parallèles.
Là, c'est une machine très imposante hein, qui fait presque notre taille et qui est longue d'au moins 2 mètres.
Ici, on peut faire plusieurs actions. comme j'ai dit, on peut charrioter, chanfreiner, percer, dresser aussi. Dresser qui consiste à réduire la masse d'une pièce. On fabrique des pièces de véhicules, des vis.
Et tout ça, vous avez appris à le faire ici, en formation ?
Exactement, nous avons appris à faire ça depuis la première année. Donc, il est impératif de venir dans ce labo, toujours bien vêtu. C'est-à-dire qu'il faut être muni d'un casque, d'une chemise bleue et des chaussures de sécurité.
Vous, ça vous plaît ces heures-là pratiques passées dans ce laboratoire ?
Oui, contrairement à lorsqu'on commençait en première année, beaucoup se disaient que nous les filles, on ne devait pas trop aimer cette matière. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup, surtout la pratique.
Vous êtes combien de femmes dans la promotion ?
Sur 22 étudiants, nous sommes 6 filles, 6 femmes juste.
Donc moins d'un tiers.
Oui, exactement. Ça a été difficile durant les débuts parce que lorsque tu viens, toi étant femme, lorsqu'on a commencé à faire des cours de fabrication mécanique, par exemple sur le tour parallèle, il y a beaucoup d'opérations à faire et ces opérations appellent un peu de la force. Parce que lorsqu'on usine sur cette machine, il faut utiliser des clés, il faut tourner le mandrin, il faut serrer les vis et tout. Et si ton serrage n'est pas parfait, c'est clair que ta pièce ne va pas être usinée de manière précise en fait. Vu toutes ces opérations qui appelaient de la force, on était un peu très stigmatisés par nos camarades en fait.
C'est des camarades garçons qui disaient ça ?
Oui, bien sûr, les camarades de la promotion. Mais hormis ça, je dirais que lorsque j'ai fait mon stage en entreprise en première année, j'ai vraiment eu du mal. Ils étaient prestataires électroniques, c'est-à-dire qu'ils installaient des appareils électroniques dans des maisons chez des particuliers. Et lorsqu'on allait, on sortait pour aller faire des installations, j'étais un peu très, très mise de côté. Non, on ne touche pas ça, ce sont les hommes ici, tu n'as pas la force de tourner ça. Ne touche pas la clé, ne touche pas, vous voyez un peu quoi, ne touche pas la vis, ça va te frapper, ce genre de trucs.
Donc, c'est vos collègues qui disaient ça ?
Ouais, donc les collègues de stage et tout, c'était pas très évident à travers de s'intégrer en tant que femme. Parce que j'ai fait un mois de stage là-bas.
Vous étiez la seule femme ?
Il y avait à peu près 6 stagiaires et la plupart du personnel technique était des hommes. Donc lorsqu'on partait faire des installations, je me retrouvais la seule femme parmi plein d'hommes. Les deux premières semaines ont été difficiles. Tu passes ton temps aussi à rester derrière et à écouter ce qu'on te dit, c'est-à-dire touche pas à ça, touche pas à ça, et que tu touches pas, tu vas pas apprendre. Lorsque j'ai fait mon deuxième stage en deuxième année, de première abord, lorsque je suis arrivée, je n'ai pas directement essayé de jouer la femme forte ou bien la femme ingénieure qui maîtrise tout, non. J'ai essayé d'abord de mieux connaître le personnel, mieux connaître comment ça se passe, les différentes techniques et tout. Et après, essayer d'apporter du mien aussi, essayer de partager avec les autres ce que j'ai eu à apprendre et tout. Donc ça n'a pas été trop difficile la deuxième fois parce que j'avais déjà une idée de comment ça se passe lorsque tu es femme et que tu arrives dans ce domaine-là. Si on te stigmatise, c'est très souvent parce qu'on se dit que tu ne connais pas. Donc il est très très important d'essayer de montrer en fait que tu maîtrises en fait. Comme je dis souvent, l'homme doit prouver mais la femme doit prouver deux fois plus. Et moi principalement j'aimerais continuer dans la mécanique des structures des matériaux. Parce qu'au Cameroun j'ai réalisé qu'il y a beaucoup mais énormément de déchets qui arpentent nos rues. Et ces déchets-là peuvent avoir une seconde vie. Comme les téléphones, les tablettes, etc. Donc j'ai envie d'utiliser ces matériaux-là afin d'en créer d'autres téléphones par exemple. Oui, bien utiliser le métal pour créer autre chose. Mais quand tu es motivé, quelque chose que les gens te diront, tu vas foncer. Donc, en tant que femme, je suis extrêmement fière de faire l'ingénierie et je compte vraiment ne pas m'arrêter là. Je compte aller loin.
Voilà, c'est le témoignage de Madeleine Lorraine, 18 ans, donc en école d'ingénieur à Douala. Clotilde Lemarchand, vous retrouvez des similitudes dans la façon d'être une fille par rapport à la technique, par rapport à vos enquêtes ?
Ah oui, cette dame hein, du Cameroun, Madeleine, elle dit beaucoup de choses très intéressantes qui font vraiment écho aux témoignages que j'ai pu rencontrer aussi en Normandie, dans beaucoup d'établissements scolaires, oui.
Quelle est la réalité d'ailleurs de la présence des filles dans des établissements scolaires ? Vous avez enquêté sur des filières très techniques.
Alors, elle est inégale parce que c'est vrai qu'il y a un effet établissement. Il y a des établissements assez volontaristes hein, qui mettent en œuvre des actions pour faire venir davantage de femmes. Mais moi, je suis allée des fois dans des lycées professionnels de plus de 850 élèves où il y avait 20-30 jeunes femmes seulement. Et pour elles, elles me disent, il faut du caractère, il faut se battre, il faut, on est testé.
Ouais. Alors que là, elles citaient des chiffres, Madeleine Lorraine, plutôt un tiers de filles, mais on est dans une école d'ingénieurs, c'est pas la même chose. Là, les milieux où vous avez enquêté, ce sont des jeunes qui se destinent à des métiers plutôt de techniciens. Hein.
Oui, après, tout dépend aussi en école d'ingénieurs des spécialités, hein, tout comme dans les formations universitaires, en physique, en maths, en informatique, les femmes sont beaucoup moins d'un tiers, hein, quelquefois, dans certaines spécialités. Donc, faut vraiment aller finement. Et dans les formations formations plus courtes, hein, qui m'intéressaient, par exemple les bacs professionnels, on a quelquefois 1%, simplement 1%, 3% de femmes au niveau national en France, hein, par exemple, la mécanique.
Hein. Alors justement, Françoise Vouillot, comment a évolué la répartition homme-femme dans les formations, dans les métiers? Est-ce que là, sur les métiers très techniques, plus on monte dans les sphères écoles d'ingénieurs, moins les filles sont en minorité? Il y a un tout petit peu plus d'équilibre que quand on est dans des bacs pro, par exemple. Quelle est la situation aujourd'hui en France?
Bah, écoutez, en moyenne, dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs, les filles représentent 27 à 28% des étudiants et des étudiantes. Mais c'est toute école d'ingénieurs mélangée.
Donc,
c'est-à-dire que quand vous
quart.
Prenez Polytechnique ou l'école des ponts et chaussées, l'école des mines, on descend en dessous. On est plutôt sur les 14-15%. Et ces chiffres-là, ils bougent pratiquement pas. Ils bougent pratiquement pas. J'avais eu la curiosité de regarder sur les 10 années écoulées les chiffres de la répartition des filles et des garçons dans les différentes filières aux différents niveaux. Ben écoutez, oui, ça augmente un peu dans les écoles d'ingénieurs. Ça a augmenté un tout petit peu. Ça a augmenté un peu dans la filière S. Mais il y a des endroits où ça régresse, par exemple.
Mais en école de commerce.
Oui, dans les écoles de commerce.
Parité.
Mais quand on prend vraiment ce qui a l'air typiquement mis dans le domaine du masculin, c'est-à-dire quand même le domaine de la production dans les lycées professionnels ou l'apprentissage, voilà. Elles sont qu'un tiers des apprentis.
Les vis et les boulons. Et là où ça régresse, vous disiez, Françoise Vouillot?
Ben dans la filière sciences et techniques des activités physiques et sportives, ce qu'on appelle STAPS, on est passé de 35% à 29%.
De filles.
Oui, la présence de filles dans cette filière.
Donc très largement minoritaire.
C'est ce que disait Margaret Marouani, il n'y a jamais eu de pente naturelle vers l'égalité et la mixité égalitaire, c'est-à-dire où il y a à peu près autant de filles que de garçons. Il y a des endroits où ça progresse un peu, il y a des endroits où ça stagne, des endroits où parfois ça régresse.
Et les secteurs où les garçons sont en forte minorité?
Ah oui,
toujours
ça c'est
les
bien
mêmes,
qu'on parle aussi des garçons. Ils sont encore plus absents. Les garçons sont encore plus absents dans certaines filières que ne le sont les filles dans les filières qu'on a étiquetées comme masculines. Ils ont plus de mal encore que les filles à y penser. Pas à le vivre. Leur situation, Clotilde pourra insister là-dessus, puisque c'est au cœur de son étude, leur situation n'est pas symétrique. Un garçon minoritaire n'est pas dans la même situation qu'une fille minoritaire. Mais ils sont encore plus minoritaires.
À quoi vous pensez comme secteur?
Ben, les secteurs de la petite enfance, de l'aide à la personne, de l'éducation, justement, pour les enfants de bas âge, tout ce qui est de l'ordre des services.
Il y avait autrefois des secteurs qui étaient plus mixtes qu'aujourd'hui.
Alors oui, les choses ne sont pas linéaires effectivement. Hein. Par exemple, dans les bacs professionnels, dans l'habillement, les garçons sont seulement 4,5%, en secrétariat 4%, en coiffure esthétique 1,5%. Et ben la coiffure c'est important parce que dans les années 1960, c'était les formations étaient largement masculines.
Un coiffeur barbier d'ailleurs.
Voilà et plus de 60%, hein, certaines années. Et depuis les années 60, il y a une régression. Voilà. Et que ce soit au niveau du CAP, du bac pro, on est à 3, 1, 2% de garçons.
Est-ce que
seulement.
C'est parce que ce sont des professions qui se sont paupérisées ou pas? Puisqu'on l'a dit pour l'enseignement, par exemple, que les garçons avaient déserté certains de ces secteurs parce qu'ils étaient moins valorisés économiquement.
Alors,
pour les coiffeurs.
Alors, pour les coiffeurs, comment l'expliquer? Bon, il y a des valorisations, effectivement. Ça s'est coordonné peut-être avec, comme vous disiez, barbier, hein, aussi, cette diminution un peu du métier, mais pas seulement.
Je ne suis pas sûre qu'il n'y a qu'une question de prestige en ce qui concerne le métier de coiffeur par rapport à ce qu'on appelait avant les instituteurs, hein, qui ont perdu en prestige. Je crois que c'est le développement aussi de l'acte de coiffure, d'aller chez le coiffeur. C'est devenu aussi une activité que les femmes affectionnent. Je termine juste ce qu'on sait aussi
ce sont les filles qui mettent les garçons dehors finalement.
Non, elles ne mettent pas dehors, mais les garçons ont plus de mal à s'envisager dans cette section parce qu'il y a une présomption sur leur sexualité, comme pour la couture.
Ouais. On dit que c'est des métiers d'homosexuels, voilà. c'est ça, pour parler clairement.
C'est clair que c'est un peu l'écho. Après, les garçons ne le vivent pas si mal que ça, quelquefois, ce soupçon, ils font avec. Mais dans la coiffure, ce que j'observe, c'est que les garçons en formation de coiffure savent s'envisagent comme les futurs patrons de salon.
Hein, c'est-à-dire comme chef d'entreprise.
Les coiffeuses, non. Oui. Il y a quand même un schéma de dévalorisation aussi. Ce qui m'a frappé dans ces enquêtes, c'est que les filles entre elles, l'insulte, c'est dire pétasse ou coiffeuse. Mmh. Coiffeuse est devenue une insulte.
Donc forcément,
chez les jeunes d'aujourd'hui.
Ça ne pousse pas les garçons à embrasser cette voie-là. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous si vous êtes un jeune et que vous avez choisi une filière atypique, où vous êtes en minorité, que vous soyez une fille ou un garçon.
7 milliards de voisins.
Et la fille, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Clotilde Lemarchand, pourquoi finalement vous avez eu envie de vous intéresser aux jeunes qui précisément ne font pas comme les autres?
Peut-être que c'est une petite tendance chez moi de bien aimer voir les marges, l'atypisme.
Ça permet de comprendre, quand on regarde les atypiques, ce qui ne marche pas sur la majorité.
Les exceptions statistiques, les gens qui sortent un petit peu, qui sont un peu sur les marges, ça permet de voir aussi les normes, ce qui se passe au cœur. Hein, j'aime bien faire l'écho entre les deux.
Vous pensez à quelques histoires là, symboliques qui disent beaucoup de choses sur les dysfonctionnements de notre système?
J'ai rencontré des jeunes longuement, j'en ai rencontré beaucoup, mais j'ai pu avoir des discussions longues avec certaines d'entre eux. Je pense à une jeune fille que j'appelle, c'est son pseudonyme Marianne, qui était passionnée de course automobile. Et depuis toute petite, elle montait dans la voiture de course de son oncle et toute sa famille était passionnée de course automobile. Et donc elle est allée très victorieuse, très volontaire, très motivée dans des formations de mécanique. Et je l'ai rencontrée à deux reprises, à trois reprises même, à trois années d'intervalle. Ce qui m'a frappée, c'est qu'en seconde, elle était quand même très volontaire, elle était un peu la mascotte du lycée, très motivée. Elle me racontait quand même que c'était difficile. Quand les deux filles de sa classe, dès qu'elles entraient en atelier, se faisaient siffler. Elles avaient des remarques. Mais t'as pas ta place ici, qu'est-ce que tu fais là? Des autres garçons de sa classe. Certains enseignants étaient, l'accompagnaient. D'autres remettaient plutôt en doute sa présence, sa compétence. Elle a eu un bac avec succès et je l'ai rencontrée en début de BTS. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui était devenu terne malgré son succès, qui était devenu amer. Et quand une
fatiguée,
chef de travaux disait les choses ont changé, Marianne, elle disait non, pas du tout. Elle serrait les dents. Elle disait moi, j'ai fait le tour des employeurs qui voudront bien accepter une jeune femme et je ne sais pas où je ferai mon stage maintenant.
Voilà. C'est quand même incroyable à notre époque. Alors, en revanche, les garçons dans des filières très féminisées, ça se passe pas si mal, d'ailleurs, la cohabitation.
J'en ai rencontré beaucoup, en esthétique, coiffure, secrétariat, mode, aide aux personnes, sanitaire et social, secteur sanitaire et social. Et ils me disent, c'est leur propre mot, on est chouchouté.
Oui, c'est ça.
On est très favorisé en tant que seul garçon.
C'est ce que dit un garçon en coiffure. Thibaut aussi, qui se destine à être soigneur pour chevaux, qui est un métier où il y a beaucoup, beaucoup de filles, parce qu'il y a une passion des filles pour l'équitation. Il dit moi, en plus, je ne suis pas tellement copain avec les garçons, c'est moins intéressant que d'être avec les filles. Et avec les filles, c'est bien, on parle souvent de cheval, ça m'intéresse plus. Il est en minorité, mais il est content.
Ah, mais ils le vivent très bien, et même certains me disent j'étais le seul garçon, ça m'a fait drôle la première journée. Et après, j'ai appris qu'il y avait un autre garçon, et j'étais pas très content, quoi. Je disais aux copines, c'est moi que vous préférez.
Ouais. Hein. Et puis, les jeunes femmes atypiques, alors elles sont quand même assez dures vis-à-vis des filles qui, elles, ont choisi des filières typiques. Et elles disent, moi, je me sens plus à l'aise dans une classe majoritairement masculine. Voilà, un peu comme si elles s'identifiaient aux garçons. Appelez-nous si vous avez choisi un métier atypique. 33 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, on parle éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, être une fille ou un garçon conditionne-t-il le choix des métiers? Et comment ça se passe pour ces jeunes qui ont choisi des métiers, des formations professionnelles atypiques? On en discute avec vous, Clotilde Lemarchand. Vous publiez Unique en son genre, filles et garçons atypiques dans les formations techniques et professionnelles. Et vous nous le disiez en première partie d'émission, c'est pas tout rose hein, pour les filles qui sont en très forte minorité dans des métiers mécaniques. Pour les garçons dans la coiffure qui sont quoi 1% aujourd'hui, c'est pas simple non plus. Ou dans les métiers de la petite enfance aussi, ou dans le secrétariat. Françoise Vouillot, vous êtes également avec nous, spécialiste de psychologie de l'orientation. Nous vous donnons la parole au 33 1 84 22 71 71. Une voisine nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Gladys.
Bonjour.
Soyez la bienvenue Gladys. Vous êtes camerounaise, vous habitez au Gabon, vous êtes à Libreville. Vous avez 31 ans et vous êtes menuisière, c'est bien cela?
Ah oui, c'est bien cela.
Et d'ailleurs, vous dites menuisier ou menuisière, vous?
Menuisière.
Menuisière. Comment se fait-il que vous ayez choisi ce métier? Racontez-nous.
En fait, le choix du métier est venu très tard. Parce que, étant déjà très petite, moi, je voulais passer la menuiserie, mais je voulais faire la mécanique, la méca auto.
Oui.
Mais la famille ne voulait pas. Et après quelques années d'études, mon papa est décédé. Et je tiens à dire que je suis la benjamine d'une famille de 32 enfants. Donc, je
32 enfants
difficile.
Oui.
Oui, mon papa avait 4 femmes.
Oui.
Ah ouais. Donc, c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas les moyens pour m'envoyer à l'école. Et moi, je voulais pas. Je savais que j'avais un potentiel.
Oui.
Mais par contre, mon grand frère, avec un atelier de menuiserie, je lui posais souvent, très souvent des questions.
Oui.
Comment il fait pour faire tel meuble? Et lui, il me disait toujours, mais si tu veux apprendre, viens. Je lui dis, mais est-ce que les femmes font la menuiserie? Peut-être la mécanique, parce que j'ai déjà vu. Mais pas la menuiserie, mais lui m'encourageait. Donc, j'ai décidé de dire, oh, je vais faire la menuiserie. Et c'était le mot qu'il ne fallait pas. Parce que quand j'ai dit à la famille, je vais faire la menuiserie, je vais mettre tout mon temps là-dedans,
oui.
Ma grande sœur, c'était vraiment très grave. La mère, les grands frères, on m'a coupé les vivres.
On vous a coupé les
je
vivres
n'arrivais pas à...
pour vous ramener à la raison, finalement.
Oui, parce que vous rendez compte que quand je voulais aller à l'école, il n'y avait pas d'argent. Chacun disait, j'ai pas d'argent.
Ah oui.
Mais quand j'ai dit que je vais faire la menuiserie, on me dit, non, moi, je peux te donner l'argent pour faire la couture, la coiffure.
Ah oui.
Tout le monde me proposait l'aide à ce moment-là.
Oui.
Quand je voulais l'aide pour aller à l'école, personne ne voulait me donner.
Alors, comment vous avez financé votre formation, du coup, Gladys?
Bon, du coup, c'est mon grand frère parce que c'était un menuisier. Le papa de Jay était un menuisier, mais comme je n'ai pas grandi auprès de lui, je pouvais pas vite m'adapter. Donc, mon grand frère m'a formé. Il m'a formé pendant 3 ans.
Mm-hmm.
Et après les 3 ans, je voulais faire plus parce que lui, il avait un petit atelier. Et moi, je lui ai dit, bon, tiens, grand frère, moi, j'ai envie de travailler à Siam. Siam, c'est une société au Cameroun,
oui.
Une très grande société. Mm-hmm. Et là-bas, ça coûte énormément cher. Mais lui m'a dit, je ne pourrais pas t'aider parce qu'à Siam, on paye 700 000.
Oui.
J'ai dit non, laisse-moi aller essayer. Je suis allée déposer mon dossier pour faire un stage.
Et vous avez été prise.
Heureusement, j'ai été prise et j'ai travaillé. On m'a demandé de verser 200 000 pour un début.
Mm.
Je suis allée voir mon grand frère, il m'a donné une partie. Et bon, il y a un prêtre, celui qui m'a baptisé, il m'a aussi aidé.
Mais Gladys, avec le recul aujourd'hui, vous avez 31 ans, vous avez tout affronté, à la fois le regard social de votre famille, les préjugés, le chantage financier aussi. Qu'est-ce que vous diriez comme message à d'autres filles qui vous écoutent, qui ont envie de se lancer dans la mécanique auto? Vous semblez dire qu'il y a à la limite plus de filles dans la mécanique auto que dans la menuiserie, si j'ai bien compris. Mais, ou en tout cas dans des métiers qui sont, où les filles sont vraiment sous-représentées. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Moi, tout ce que je pourrais dire à chaque fille, et c'est même ce que j'essaye de dire, c'est de ne pas laisser les autres choisir pour nous. Parce que moi, si j'avais laissé quelqu'un choisir pour moi, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Parce que si je suis arrivée à Libreville, c'est une société qui est venue au Cameroun me chercher pour que je vienne travailler.
Ah oui, d'accord. Vous avez été démarchée parce que vous êtes très bonne dans votre métier, si je comprends bien, Gladys.
Oui, et je tiens aussi à rappeler que ce n'était pas facile. Quand je suis arrivée, j'ai vécu le petit moment de ma vie pendant les 3 premiers mois. Il ne fallait pas toucher si les femmes, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens montrer que tu connais beaucoup travailler. Donc, j'étais vraiment mise à part. J'ai montré ce que je pouvais faire. Bon, heureusement pour moi et malheureusement pour le responsable en cette époque-là, il était tombé malade.
Oui.
Et il y avait des trucs à faire sortir. Bon. Je suis partie dire que je peux le faire.
Vous avez surmonté toutes ces difficultés par la compétence et par le travail. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Gladys. Nos invités, évidemment, veulent réagir. Elle insiste beaucoup, Gladys, sur la liberté de son choix, comme si c'est ça, finalement, qui l'avait galvanisé, qui lui avait donné la force de dépasser les préjugés. Clotilde Lemarchand.
Oui, ça me frappe dans ce témoignage. Ne pas laisser les autres choisir pour nous. Ce sont effectivement souvent des jeunes femmes très motivées que je rencontre lorsqu'elles... Parce qu'elles font, il faut effectivement qu'elles se bagarrent pour faire leur place. Ce qui me frappe aussi, c'est la force aussi d'un encouragement familial. On voit dans son témoignage le double jeu de la famille, un frein important, mais aussi ce grand frère qui l'a encouragé, mais qui l'a formé 3 ans. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi dans plein de témoignages.
Françoise Vouillot, est-ce que l'inconfort pour les garçons est très différent quand ils sont en minorité? Parce qu'on ne va pas parler non plus que des filles en minorité dans les filières techniques.
Mais les situations ne sont pas symétriques. Dans des enquêtes, des recherches que j'avais pu mener, on s'aperçoit que les garçons, la difficulté, elle est avant. C'est oser dire qu'ils ont envie de faire une filière majoritairement suivie par les filles.
C'est-à-dire qu'il y a une autocensure vraiment
voilà,
à l'origine même de la formulation de son vœu.
Ils n'y pensent même pas. Parce qu'ils ont appris quand même que quand on est un garçon, faire ce que font les filles, ce n'est pas toujours le plus valorisant. C'est ce que Françoise Héritier appelait la valence différentielle des sexes. Donc eux, la difficulté, c'est oser le dire à la famille, que les copains ne se moquent pas d'eux, etc. Mais une fois que ça, c'est possible, ils sont dans les classes beaucoup mieux accueillis que ne le sont les filles.
Ouais,
ils sont chouchoutés, ils sont un peu le petit coq dans la basse-cour.
Mais en même temps, alors, ce que vous semblez nous dire, c'est que dans des sociétés du libre-choix comme en France, finalement, on a des garçons qui refoulent leurs aspirations profondes, personnelles, qui contrarient réellement ce qui pourrait les intéresser, non?
C'est un petit peu plus peut-être compliqué que ça. C'est-à-dire, quand je disais, ils n'y pensent même pas, il n'y a pas de renoncement dans ce cas-là. C'est-à-dire que la socialisation des garçons est quand même grandement orientée vers le fait de se détourner, de faire comme les filles. Mmh. On ne joue pas à la poupée, en tout cas pas trop longtemps, quand on est un petit garçon. Si on n'est pas assez sportif, les parents parfois s'inquiètent un peu. Toute la socialisation les éloigne de la sphère du féminin. Donc, il n'y a pas forcément de douleur à ne pas y penser.
On a un jeune coiffeur qui nous appelle de Cotonou au Bénin au 33 1 84 22 71 71, puisque justement on parlait des coiffeurs tout à l'heure, Clotilde Lemarchand. Bonjour Romaric.
Bonjour, auditeur, bonjour.
Vous êtes le bienvenu, on vous écoute alors. Comment vous situez-vous dans votre profession? Vous êtes un des très rares hommes, non, si je ne me trompe pas?
Évidemment, très rare à Cotonou. Au début, ça n'a pas été facile. J'ai surtout compté sur l'aide de la famille et des amis qui m'ont beaucoup aidé, mais tant aux autres, ils m'ont rejeté par endroits. C'est le titre Soir égal, ce que les filles font dans toutes les rues de Cotonou.
Vous coiffez des hommes ou également vous tressez des filles?
Je tresse aussi les filles.
Ouais. Et là, comment réagissent les filles, les clientes?
Oui, il y a certaines qui sont heureuses quand on peut les traiter. Il y a certaines qui s'invitent même à la maison pour le faire. Mais il y a certaines qui disent non, je veux pas qu'un garçon touche à ma tête.
Oui. Qu'est-ce qu'on met en doute finalement? Votre choix, votre compétence?
Bon, non. Si c'est la compétence, je ne pense pas. Peut-être c'est mon choix. Ou bien, parce que je suis garçon, je ne sais pas trop. Mais moi, je suis fier pour mon métier.
Vous êtes fier d'être coiffeur?
Oui, oui.
Eh bien, merci de nous avoir appelé, Romaric, en direct de Cotonou. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Aujourd'hui, alors on l'entend dans les témoignages, la famille, les amis peuvent conforter, aider un jeune à poursuivre la voie qu'il sent la plus adaptée à sa personnalité finalement. Mais qu'est-ce qui pèse le plus dans un pays comme la France? La famille, les amis, les mécanismes d'orientation scolaire ou tout simplement la distribution des métiers dans la société? Qu'est-ce que vous répondriez, Clotilde Lemarchand et Françoise Vouillot?
Alors, on va se répartir la parole. C'est un peu tout ça. Moi, je dirais que c'est tout un faisceau de freins qu'il y a. Ne pas laisser les autres choisir pour nous, c'est pas si simple que ça aujourd'hui, pour les filles comme pour les garçons. Il y a effectivement dans les formations et même dans les familles une conscience aussi des freins et de l'ordre des choses sur le marché du travail. Hein. Et c'est vrai que la recherche d'un stage, d'un lieu de stage, c'est quand même quelque chose dont les jeunes peuvent témoigner et montrent effectivement que c'est quand même assez difficile pour une jeune femme d'aller trouver un stage en plasturgie ou en mécanique ou en maçonnerie.
Ça prouve bien que derrière, il manque quand même des mécanismes d'accompagnement de ces choix-là pour l'insertion professionnelle sur le marché du travail.
C'est ça,
Françoise Vouillot.
Oui, moi aussi, je dirais comme Clotilde que c'est tout un ensemble de facteurs dès que l'enfant est né. Donc, déjà dire qu'il n'y a rien de naturel à cette division sexuée de l'école, des choix d'orientation et donc du travail, qu'on a affaire à un produit de socialisation. Ça commence avec les jouets, enfin les goûts. Les intérêts, bien sûr qu'en troisième ou premier choix d'orientation, on nous dit, mais enfin, c'est ce qu'ils veulent ou c'est ce qu'elles veulent. On ne va quand même pas les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc, personne n'a jamais forcé personne. Au contraire, on a plutôt à travailler, à leur ouvrir des horizons un peu plus larges que ceux qu'ils ont en tant que garçon ou en tant que fille. Mais à 15-16 ans, les goûts sont déjà bien construits depuis la petite enfance. Puis à 15-16 ans, les garçons et les filles, ils ont des enjeux de se plaire mutuellement, etc. Donc, ils ne sont pas trop transgressifs sur la question des normes de masculinité et féminité. Et ça se traduit dans leur choix d'orientation, parce qu'à travers leur choix, ils montrent qu'ils sont des vrais garçons masculins ou des vraies filles féminines. Et les copains, ça compte énormément à l'adolescence. Donc tout le monde y participe à l'état des lieux qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, la famille, l'école, les médias.
D'autant plus à la limite quand on est dans des milieux plus populaires ou pas forcément? La transgression, elle est plus difficile?
Eh bien, oui et non. Oui et non, c'est plus compliqué que ça. Oui, en un sens, c'est vrai que dans certains milieux ouvriers, mais les mondes ouvriers sont pluriels, sont variés. Hein. Dans certains mondes ouvriers, il y a une tradition de la femme au foyer, de l'homme au travail, comme chez les hommes et femmes du Nord. Il y a eu cette image-là, pas partout dans les mondes ouvriers. Donc il y a effectivement une culture aussi qui peut être transmise, une culture familiale donc aussi, d'organisation entre les sexes, sur le travail, à la maison. Mais c'est pas comme ça dans tous les mondes ouvriers, c'est pas comme ça forcément en agriculture, où on a le modèle d'un couple biactif, deux personnes travaillent à la ferme, l'homme et la femme, et ont des enfants et vivent sur place.
Il y a de plus en plus de femmes agricultrices et chefs d'exploitation.
Ouais. Voilà.
Est-ce que la robotisation qui s'annonce dans presque tous les milieux, ça pourrait rebattre les cartes et la répartition sexuée des métiers?
C'est vrai que les techniques changent les choses. Dans l'imprimerie, on a pu voir effectivement que une technique peut changer les choses. Mais ça ne suffira pas à, je pense, transformer le poids des représentations qui sont très fortes. Et il y a cette idée des normes, comme Françoise le disait, qui socialise au fait que on ne va pas... Il y a un ordre des choses, il y a des idées, et les idées, quelquefois, mènent les choix.
En ce moment, il y a juste une
juste une petite parenthèse, Françoise Vouillot, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Il y a une réforme annoncée des bacs professionnels avec une volonté du ministre de l'Éducation nationale de revaloriser les filières pro. On a mis l'accent sur, d'ailleurs, beaucoup là dans la presse ces derniers temps, sur la cuisine, qui est un métier qui deviendrait glamour, alors qu'en réalité, les métiers de bourse sont largement désertés par les jeunes. Est-ce que ça, ce sont des filières qui pourraient se féminiser parce qu'il y aurait une volonté politique, une attention politique aussi sur ces secteurs-là?
Oui, ce qui peut permettre l'augmentation des filles dans certaines formations, comme des garçons d'ailleurs dans d'autres formations, c'est pas seulement la question des choix des jeunes, c'est aussi toute une convergence de piliers, de vecteurs d'action, dont des politiques publiques. Effectivement, il faut une vraie volonté politique là-dessus, c'est-à-dire une vraie volonté politique qui exige des résultats. C'est-à-dire, on met en place des indicateurs et puis on évalue. On évalue des processus, des modes d'action qui vont favoriser, par exemple, l'arrivée des filles dans les métiers de la cuisine. Actuellement, il n'y a que 25% des cuisiniers qui sont des femmes. Et je ne parle pas que des chefs étoilés, c'est tous les métiers de la cuisine, y compris de collectivité. Donc, on n'est pas comme à la maison, là. Hein. Donc, dès que c'est à l'extérieur...
Mais dans le fond, quel problème ça pose à une société ? D'avoir des filières où il n'y a que des garçons, des filières où il n'y a que des filles. Est-ce que c'est un problème, dans le fond ?
Oui, il y en a...
Enfin, non, mais sur le plan économique, oui. Ne serait-ce que sur la compétitivité économique.
Oui, déjà sur le plan économique, parce que sinon, c'est quand même aussi une question, j'allais dire, philosophique et de démocratie, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit ainsi. Donc, je ne vois pas pourquoi on le justifierait, il n'y a aucune raison. Mais sur un plan économique, si on y réfléchit bien, c'est complètement irrationnel de hyper-spécialiser la moitié de l'humanité sur certaines compétences, et l'autre moitié, on l'a vu pendant les guerres, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, tout d'un coup, on ne s'est plus demandé si c'était féminin ou pas féminin, que les femmes occupent les postes des hommes
dans les usines,
mais pas seulement dans les usines. Elles ont occupé des fonctions d'encadrement, de responsabilité, voilà, les transports, etc. Oui.
Ça pose la question de la mixité, c'est-à-dire la coexistence des deux sexes sur un même espace, dans l'espace public, dans l'espace privé. Et c'est en fait l'humanité, elle a beaucoup fonctionné sur l'absence de mixité, sur la non-mixité. Et je pense que c'est quelque chose à apprendre ou à réapprendre.
Ouais, ça va changer.
Trop récent,
est-ce que ça va, on va progresser avec les générations, là ou pas, à la lumière des témoignages que vous avez recueillis, qu'on a entendus dans l'émission?
Eh bien, ça peut, mais on voit que les forces sont contraires, les forces sociales, les groupes de pression, il y a des débats, les questions de la mixité font débat. On voit apparaître, par exemple, pour ma génération, la mixité à l'école, c'est une évidence. J'ai vécu toujours comme ça, depuis la loi de mixité 1975, voilà, il y a la mixité. Et pourtant, il y a des demandes aujourd'hui, ça et là, dans le monde, de faire des écoles non mixtes.
Eh bien, merci en tout cas à toutes les deux. Clotilde Lemarchand, vous publiez Unique en son genre, filles et garçons atypiques dans les formations techniques et professionnelles. Là aussi, on peut se demander si la force du modèle, c'est pas quelque chose qui peut faire avancer les choses,
oui.
Avec les témoignages qu'on a entendus dans l'émission aujourd'hui et des auditeurs qui nous ont appelés. Et Françoise Vouillot, vous avez publié Les métiers ont-ils un sexe? Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau. Que se passe-t-il pour les enfants lorsque les parents se séparent? Merci à vous, mesdames.
Merci.
Merci.
problème chez 7 milliards de voisins. Elle décide. Et tout de suite, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Enfants d'ici et d'ailleurs. On en parle chaque semaine avec vous, Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, vous dirigez la revue transculturelle L'Autre. Chaque semaine, une question qui nous interroge sur les relations entre les adultes et les enfants. Aujourd'hui, le divorce. Banal, c'est vrai, dans de nombreuses sociétés. Est-il banal pour les enfants? En gros, que se passe-t-il pour les enfants lorsque leurs parents se séparent?
La séparation des parents, le divorce des parents, c'est vrai que c'est banal, c'est fréquent. À Paris, on considère qu'il y a plus de couples qui se séparent pendant l'enfance de leurs enfants que ceux qui restent ensemble. Donc c'est vraiment très important et partout dans le monde. Alors c'est tellement fréquent, on pourrait se dire, ça va devenir banal pour les enfants. Et non, c'est fréquent. Mais pour les enfants que je vois, quelles que soient les classes sociales et quelles que soient les origines culturelles de leurs parents, c'est toujours un séisme, c'est toujours un moment très important. Il y a toujours un avant et un après la séparation
pourtant,
de leurs parents.
On pourrait se dire, quand ils voient les autres être comme eux, finalement, c'est un facteur rassurant. Et en fait, non.
On ne le cache plus.
Ils ne sont pas stigmatisés.
Voilà, on n'est pas stigmatisés, mais c'est toujours une souffrance. Il faut se remettre, il faut trouver une solution. Alors, par exemple, je pense à Sébastien, dont les parents viennent de se séparer. Et depuis qu'il a appris la séparation de ses parents, puis qu'on lui a annoncé, donc avant même que ça se fasse, eh bien, de nouveau, Sébastien, alors qu'il a déjà 5 ans et qu'il est propre depuis plus de 2 ans, il fait pipi au lit toutes les nuits depuis cette période. Il a peur d'aller aux toilettes. Il dit qu'il a mal au ventre et qu'il ne peut plus aller à l'école. Et ses parents sont extrêmement inquiets. Donc, ils viennent ensemble consulter. J'ai une conversation toute seule avec ce garçon très intelligent, qui me dit qu'il fait beaucoup de bêtises, hein, et que ces bêtises rendent tristes ses parents et en colère, et que c'est peut-être pour ça que ses parents sont si fragiles et se séparent. Et il me dit aussi que s'il redevient petit, à ce moment-là, peut-être qu'on va recommencer l'histoire et qu'il fera autrement et que ses parents ne se sépareront pas.
Sous-entendu, il se sent coupable.
Ben oui. Et alors ça, c'est ça, une des choses les plus graves pour les enfants, c'est ce sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, si j'avais été un enfant parfait, alors mes parents seraient restés ensemble.
Et pourquoi ces enfants se sentent coupables de la séparation de leurs parents, finalement?
Mais parce que, devant les événements où il n'y a pas de sens, je ne comprends pas. Moi, mes parents, je les aime, j'ai envie d'être avec eux. Et là, tout d'un coup, ils se séparent. Les théories qu'on me donne ne sont jamais très convaincantes, surtout pour les petits.
Là, vous parlez au nom des enfants.
Oui, c'est ça. Pour les petits et les ados, en dessous de 3 ans. Et
j'allais vous poser la question, justement, à quel âge on est le plus fragile, le plus sensible à la séparation des parents?
Alors, on est les plus dépendants de ses parents en dessous de 3 ans et à partir de l'adolescence. En dessous de 3 ans, parce que c'est difficile, les mots sont difficiles à comprendre. Vous avez une rupture totale de votre vie quotidienne et ça, c'est très difficile pour les enfants.
Et à l'adolescence, on pourrait se dire l'adolescent vit dehors.
C'est clair que les adolescents, ils aiment s'appuyer sur les autres, ils investissent les autres, les enseignants, les amis, les copains, les camarades, les parents des copains, ils sont toujours mieux que ses propres parents. Et en même temps, justement, pour faire ce travail d'autonomisation, ils ont besoin d'un couple parental fort et ils interprètent les séparations comme un lâchage, comme une insécurité totale, une catastrophe.
Alors, question, comment préserver les enfants malgré le divorce, la séparation?
D'abord, leur dire clairement les choses authentiquement, à hauteur d'enfant. Leur laisser le temps aussi de s'habituer à cette idée. Ne pas rentrer dans la vie intime des adultes, parce que ça les encombre beaucoup, mais de leur permettre de dire ce qu'ils pensent et de ne pas les censurer. Parce que, par exemple, Sébastien, c'est ce qu'il faisait le plus mal, c'est quand il disait « je suis responsable » et son père et sa mère lui disaient « mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe ». Donc, laisser les enfants s'exprimer, le dire aux autres, dire leur colère et leur culpabilité aux tantes, aux oncles, aux amis, pour que ces enfants puissent retrouver une position et leur assurer que la vie va s'organiser autour de parents qui seront toujours là, et dire aussi comment la vie va s'organiser, ça c'est vraiment très important.
C'est ce qui les concerne en premier lieu.
Exactement, la vie quotidienne.
Merci Marie-Rose Moreau. Vous avez publié « Grandir en situation transculturelle », des enfants qui appartiennent à plusieurs mondes. Et on vous retrouve tous les vendredis. Vendredi prochain, on parlera de pourquoi les enfants, les ados n'aiment pas déménager. Voilà,
exactement.
Réponse vendredi prochain. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique Magazine et nous retrouver aussi sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain avec notre rendez-vous mensuel sur les startups, les projets. Didier Akouété, le coach, vous écoute, vous conseille. Alors ne ratez pas l'occasion. Bonne ambiance assurée pour les jeunes patron de l'Afrique qui gagne, c'est ceux que nous avons surnommés les JPAG.
Mon projet à moi, c'est la mise en place d'une entreprise de transformation moderne, de variété améliorée de manioc.
Moi, je crois déjà qu'il faut convaincre le consommateur. Bon, c'est vrai, on a commencé un peu comme tout le monde le fait, le café dans sa forme basique, et on a commencé avec très peu de moyens.
C'est génial, c'est-à-dire on est en train de vivre la transformation de l'Afrique.
Les voisins, les voisines, vous avez un projet d'entreprise? Écrivez-nous à 7milliards@rfi.fr et recevez les conseils du coach en direct sur RFI.
On veut des jeunes qui y croient, qui ont envie d'être des patrons et de diriger l'Afrique demain.
Et le numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71 71. Et on accueille aussi des filles qui veulent devenir chefs d'entreprise et qui ont un projet, quels que soient les secteurs d'ailleurs, dans l'agroalimentaire, dans le social, dans la culture, ou l'agro, ou les services et la technique. Voilà, on se dit à lundi.